Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour et bienvenue. Nous serons bientôt 8 milliards 500 millions sur Terre. C'est la projection à l'horizon 2030, autant dire demain ou presque. Et si la population n'augmente pas sur tous les continents, en revanche, elle vieillit presque partout, d'après l'ONU. C'est particulièrement le cas en Europe, où ce vieillissement est devenu l'un des plus grands défis de société à relever, qu'il s'agisse d'emploi, de développement des services, de protection sociale, ou bien sûr de prise en charge des personnes en perte d'autonomie. En France, leur nombre va augmenter de 50% dans les 20 prochaines années. Et avec elle, c'est aussi le nombre d'aidants qui va augmenter. Ces aidants qui accompagnent un proche âgé ou en situation de handicap seraient 10 millions dans le pays. Et soutenir ces aidants familiaux qui assument une charge lourde physiquement et mentalement fait partie du défi à relever. Dans le département des Hauts-de-France, région où ils sont le plus nombreux, des plateformes de répit se multiplient pour alléger leur quotidien. C'est un reportage en Picardie de Lise Verbeck.
Jacqueline, 84 ans, vit avec son mari dans une petite commune près d'Amiens.
D'accord.
Jacqueline est aidante de son mari, malade Alzheimer, depuis 6 ans. Après 62 ans de mariage, impossible pour elle d'envisager la vie sans lui.
Il ne peut pas être mieux qu'ici. Alors au début, il marchait, c'était quand même plus agréable. Et là, il est dans une phase où il ne marche plus, il est en fauteuil roulant. Alors il sait que je suis quelqu'un qui s'occupe beaucoup de lui. Quand notre fille de Rambouillet vient, ou certains amis très très proches, il a un sourire, je les connais ceux-là, mais il ne met pas un nom. Non. Alors si je lui demande s'il a encore faim, là il répond oui. S'il est fatigué, oui, ou très, mais non, il ne communique pas.
Les journées de Jacqueline sont bien chargées, rythmées par les soins à domicile.
Alors, je me lève généralement vers 6h. Entre 6h et 8h, je prends le petit déjeuner et je fais tout ce qui demande de la concentration sur l'ordinateur ou autre, ce qui me permet d'être au calme. 8h30, je lui donne son petit déjeuner. L'infirmière arrive, donc pendant ce temps-là, je vais marcher une demi-heure, ce qui fait beaucoup de bien. Et après, c'est le déjeuner, donc ça passe très vite. Déjeuner, le kiné qui vient. J'ai peut-être une petite plage plus calme entre 2h et 4h. Qui me permet alors soit de lire, soit les petites occupations ménagères. 4 heures, les soignants. Il est couché maximum pour 19 heures. Et je me couche très tôt puisque je me lève tôt. Et voilà la journée. Les dents, c'est beaucoup de... Je n'irai pas jusqu'au mot sacrifice, mais beaucoup d'abnégation. Évidemment, je ne peux sortir que quand il y a quelqu'un ici.
Deux fois par mois, une aide-soignante de la plateforme de répit Alice vient chez elle pour s'occuper de son mari quelques heures. Jacqueline en profite alors pour faire ses courses et s'il reste du temps, pour aller marcher.
Marcher, c'est une des conditions pour tenir. Le lien social, marcher, bien manger, ça permet de faire face.
En plus du répit à domicile, la plateforme Alice propose aussi aux aidants de déposer leurs proches pendant une journée dans 5 villes différentes dans l'est du département de la Somme. Les aidés y sont entourés d'aides-soignants spécialement formés.
Bonjour Monsieur Vigneux.
Ça va ?
Vous ?
Bah oui.
Ça va ?
Tous les vendredis à 16h30, Eric vient récupérer sa mère qui souffre d'Alzheimer.
Tiens.
Là, voilà, comme ça, la sœur.
Je me suis rendu compte que l'aidant, c'était bien qu'il puisse se faire aider aussi.
Sa mère vit avec lui depuis 2017, mais son état s'est dégradé ces derniers mois.
Elle a besoin de me voir. J'ai une grande baie vitrée et je peux quand même faire du jardin dans la partie qui est visible de la baie vitrée. Mais sinon, je suis complètement coincé, quoi. Avec l'équivalent d'un bracelet électronique avec une distance minimum que je ne peux pas dépasser.
Alors, je vous accompagne dans une petite pièce.
Quand il dépose sa mère à l'accueil de jour, le vendredi à 9h30, il sait qu'elle est entre de bonnes mains et pour lui s'engage alors une course contre la montre.
Je me dépêche de partir faire mes courses, remplir mon caddie et puis ensuite retourner chez moi, mettre les choses dans le congélateur, ranger un peu, faire quelques paperasses et puis revenir ici. Donc généralement le vendredi je déjeune pas et je fais tout ce que je peux faire, condenser au maximum.
Il fait aussi appel depuis quelques semaines à des professionnels maternelle qui viennent faire la toilette de sa mère le matin, chose qu'il assumait avant seul. En 2015, la plateforme Alice, pour aide, lien, information, itinérance et soutien, a répondu à un vrai besoin des aidants. En plus de l'accueil de jour et du répit à domicile, elle apporte aussi une aide psychologique si besoin, avec 3 psychologues à mi-temps.
On va avoir des missions d'activité de resocialisation pour que les aidants puissent aussi garder du lien social.
Émeric Bourbion, directeur du pôle domicile au centre hospitalier de Montdidier.
Si on avait l'habitude d'aller à la piscine, d'aller marcher, eh bien, on peut très vite mettre ça de côté. Nous, on est là pour ces activités de resocialisation, de leur dire participez à nos activités, vous êtes dans un cadre bienveillant, puisque ces activités sont nos aides-soignantes qui les organisent. Donc ça fait partie aussi d'une des missions de la plateforme.
Face au vieillissement de la population, la question du maintien à domicile devient centrale. L'année dernière, le gouvernement a présenté un plan de soutien pour les aidants. Il prévoit notamment la création de 6000 nouvelles places de répit pour atteindre les 40 000 dans toute la France d'ici 2027.
D'après la Commission européenne, le nombre des plus de 80 ans aura doublé d'ici à 2070 parmi les 27. Mais les pays européens ont des approches et des réponses très différentes les uns des autres face à cette réalité. Pour comprendre ces différences et décrypter les enjeux de cette évolution démographique, nous avons interrogé Isabelle Marchais, chercheuse associée à l'Institut Jacques Delors, sur les thématiques de santé et de démographie.
Au sein de l'Union européenne, d'ici à 2070, on pourrait par exemple compter 30% de plus de 65 ans contre un peu plus de 20% aujourd'hui. Alors, tous les pays européens font face à ce défi du vieillissement, défi qui est quand même plus aigu dans certains pays que d'autres, c'est-à-dire qu'on peut notamment citer l'Italie et l'Espagne qui sont confrontés à un gros problème de vieillissement de leur population.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les facteurs de ce vieillissement ?
Alors, d'un côté, vous avez une diminution de la natalité qui elle-même est liée à différents facteurs comme le recul de l'âge, par exemple, auquel on a son premier enfant, le baisse du nombre d'enfants par femme, mais vous assistez aussi à une augmentation de l'espérance de vie à la naissance, qui elle-même est d'environ 80,6 ans en moyenne dans l'Union européenne, c'est-à-dire un gain de 10 ans en 50 ans. Avec, là encore, des inégalités à la fois selon les sexes, c'est-à-dire qu'on voit que les femmes continuent à vivre plus vieilles que les hommes, des inégalités selon les pays au sein de l'Union européenne et des inégalités aussi liées aux conditions socio-économiques.
Vivre plus longtemps, c'est bien, mais ça implique aussi de vieillir le mieux possible. Ce risque de mal vieillir, il est déterminé par quels facteurs ?
Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on voit bien sûr qu'il y a une forte différence entre l'espérance de vie générale et l'espérance de vie en bonne santé, qui est avoisine environ 64 ans en moyenne au sein de l'Union européenne. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, insiste justement sur ce vieillissement en bonne santé, c'est-à-dire notamment sur la capacité à aider les personnes âgées à préserver leur santé aussi bien physique, sociale, mentale et à prendre une part active dans la société. Et des chercheurs ont mis au point une mesure plus objective aussi du bien vieillir qui est là définie en fait comme la différence entre l'âge civil et l'âge physiologique. Et là, on voit que ces travaux identifient en fait plusieurs déterminants des risques de perte d'autonomie et donc du mal vieillir, c'est-à-dire aussi bien la richesse, c'est-à-dire le revenu, le niveau d'isolement social, l'éducation, donc le niveau d'études et le niveau des aides publiques allouées. Et ces travaux confirment le rôle des inégalités socio-économiques dans le vieillissement, c'est-à-dire qu'on voit que les plus démunis ont le plus souvent un âge physiologique beaucoup plus élevé que leur âge civil.
Il y a aussi de grandes disparités d'un pays à l'autre. On dit par exemple beaucoup que les pays du Nord sont les champions du bien vieillir, c'est vrai ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la prise en charge du vieillissement en fait varie selon les pays européens. Les pays du Sud et de l'Est sont plutôt à la traîne en fait dans les réflexions sur une manière plus innovante d'accompagner les seniors. C'est-à-dire que les uns comme les autres s'appuient encore beaucoup sur les aidants familiaux. C'est-à-dire que l'Espagne et l'Italie ont cette tradition encore d'un accompagnement par les familles de leurs seniors. Les pays de l'Est aussi s'appuient beaucoup sur les familles, mais ils sont aussi confrontés à certains problèmes plus spécifiques qui sont la fuite de main-d'œuvre, un niveau de vie aussi moins élevé, des investissements insuffisants aussi dans la prévention de la perte d'autonomie et plus généralement des ressources publiques plus limitées. A contrario, les pays du nord de l'Europe, donc pays scandinaves, Pays-Bas ont mis en place des politiques efficaces de prévention de la perte d'autonomie avec une forte professionnalisation des soins, avec un équilibre des dépenses entre la prévention et le sanitaire, c'est-à-dire le curatif, avec aussi des réseaux de soins qui sont centrés en fait sur les besoins, les attentes des personnes âgées. C'est-à-dire que par exemple, plutôt que de leur apporter des repas à domicile, on envoie des ergothérapeutes pour les aider à aménager en fait leur environnement. On voit aussi des municipalités qui sont très impliquées dans la prise en charge des seniors. Et enfin, bien sûr, la priorité accordée par ces pays au maintien à domicile, ce qu'on appelle le virage domiciliaire.
Isabelle Marchais, en toile de fond, il y a bien sûr le regard que la société porte sur cette population âgée, la place qu'elle lui fait. Quel constat faites-vous ? Est-ce qu'il y a des choses à changer ?
Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, nos sociétés portent souvent un regard assez sévère, voire très sévère sur les seniors, qui sont par exemple considérés comme largement responsables de la dette aussi bien financière qu'écologique. La vieillesse véhicule des images trop souvent négatives, à la fois de dépendance, de poids pour la société, ce qui a pour conséquence aussi d'entraîner des problèmes en fait, de perte d'estime de soi pour les plus âgés, avec une sorte de sentiment de ne pas être conforme en fait, au modèle d'une certaine société où prime la vitesse, la performance. Or, en fait, ces critiques oublient l'apport essentiel que représentent les seniors à nos sociétés. On peut rappeler leur contribution au lien social, à la solidarité à travers leur participation à des activités bénévoles. On peut citer aussi l'apport important des liens intergénérationnels. On peut enfin, sur un plan plus matériel, citer la contribution des 65 ans et plus à la croissance économique et à la création d'emplois. Cette silver economy, cette économie des seniors, qui recouvre toute une série en fait, de secteurs, que ce soit par exemple la santé, que ce soit la sécurité avec la téléassistance ou les détecteurs de chute, que ce soit l'habitat avec le développement d'objets connectés, ou bien sûr les services à la personne en tant que telle avec les soins à domicile. Donc, il me paraît en effet très important et urgent de changer le regard de notre société sur ses aînés. Par exemple, on pourrait imaginer de nouer une sorte de pacte intergénérationnel en fait, pour assurer le bien vivre ensemble des plus âgés et des plus jeunes.
Isabelle Marchais, chercheuse associée à l'Institut Jacques Delors. Il y a 2 ans, dans le sillon de la pandémie de Covid, un vaste scandale a secoué le secteur des établissements spécialisés pour personnes âgées en France. Manque de personnel, maltraitance, déshumanisation des résidents. Mais la France n'est pas la seule mise en cause. En Irlande, une série de rapports officiels des autorités sanitaires a mis en lumière des situations très alarmantes. À Dublin, les précisions de notre correspondante Clémence Pénard.
Jusqu'à 2 semaines sans douche, 1 demi-heure d'attente avant d'être enfin amené aux toilettes. Voilà ce qu'endurent les résidents de la clinique Tara Winthrop, dans le nord de Dublin, et ce qu'ont révélé les inspecteurs. Des résidents qui ont également déclaré qu'ils étaient mis au lit sans qu'on leur demande leur avis. L'un d'entre eux décrit aussi avoir dû téléphoner à un proche pour que celui-ci appelle le centre afin d'obtenir l'aide du personnel de nuit, car lui, appuyé sur sa sonnette, dans le vide. La maison de retraite en question justifie ces terribles conditions par un manque de personnel, et ce, depuis le Covid. Or, le groupe Tara Winthrop était déjà dans le viseur l'année dernière pour manquement à ses obligations. Les résidents avaient indiqué à l'inspecteur que les activités qui leur étaient proposées ne tenaient pas compte de leur handicap. Par exemple, on proposait à des personnes qui ne pouvaient plus bouger leurs bras des jeux nécessitant d'écrire. Dans une autre maison de retraite. Cette fois-ci, à Wexford, dans le sud de l'Irlande, une inspection a révélé qu'une personne âgée aurait été enfermée à clé dans sa chambre. L'organisme de surveillance de la santé a prévenu les prestataires concernés sont tenus de prendre des mesures immédiates pour remédier à cette série de non-conformités. Une chose est sûre, ces négligences ne vont pas redorer l'image des établissements de soins en Irlande. On se souvient de l'ampleur des abus dans les foyers catholiques pour mères et bébés, des histoires de maltraitance jusque dans les années 90 qui sonnent encore comme un traumatisme en Irlande.
Oh là 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 là.
<t'en> La baisse des naissances est une réalité et en Europe, elle est devenue l'objet de débats idéologiques acharnés. Entre ceux qui ne veulent pas entendre prononcer les mots de natalité et fécondité parce qu'ils seraient politiquement incorrects et ceux qui les placent au centre de leur projet de société, on trouve de tout. Avec un constat, celui d'une faible fécondité parmi les 27, au regard de la population mondiale, et c'est l'œil européen de Franceline Beretti.
Longtemps, la France a été la championne de la fécondité en Europe. Enfin, championne à l'échelle de l'Union, qui est elle-même en dessous du seuil de renouvellement des générations. En 2021, le taux de fécondité en France était de 1,84 enfants par femme. La République tchèque, la Roumanie, l'Irlande avaient des taux comparables, et les taux les plus faibles étaient en Italie, en Espagne et à Malte. Mais la France fait de moins en moins d'enfants et ça inquiète en haut lieu. En janvier dernier, le président voulait relancer la natalité.
Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force, sans doute la singularité en Europe, quand on se comparait aux voisins. Et c'est moins vrai depuis quelques années. Alors il y a derrière cela des angoisses qui vont avec la société, peut-être des choix pris jadis sur certains sujets financiers.
Emmanuel Macron voulait la mise en place d'un nouveau congé de naissance et d'un grand plan de lutte contre l'infertilité. Bon, pour le moment, il est occupé par autre chose. Mais de nombreuses voix s'étaient élevées contre ces propositions jugées scandaleuses. Écoutez la députée écologiste Sandrine Rousseau.
Je le rappelle, les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État. Chaque femme est libre de choisir de faire des enfants ou de ne pas en faire, que toute décision est légitime et qu'il n'y a pas d'espèce d'enjeu national.
Pourtant, la natalité est bien un enjeu national dans plusieurs pays européens. C'est vrai que c'est particulièrement le cas parmi les gouvernements conservateurs et nationalistes. En Italie, par exemple, en 2022, le pays est passé sous le seuil symbolique des 400 000 naissances annuelles. La présidente du Conseil, Giorgia Meloni, fustige les gouvernements précédents qui n'ont pas fait de la natalité une priorité.
Pendant des décennies, la culture dominante a raconté qu'avoir un enfant aurait compromis ta liberté, ta carrière, tes rêves. Un choix qui risquait de t'enlever beaucoup plus que ce qu'il allait t'apporter. De mauvais maîtres ont enseigné que la parentalité était un concept archaïque, patriarcal. Et dernièrement, on a même entendu la folie selon laquelle mettre au monde un enfant était un acte contre l'environnement.
Mais la chef de l'extrême droite italienne le sait bien, elle l'a d'ailleurs dit dans le même discours, si les Italiens ne font pas d'enfants, c'est surtout pour des raisons économiques. Le ministre Giancarlo Giorgetti, qui vient de la droite libérale, est préoccupé.
Le taux de natalité est une question fondamentale. Aucune réforme de l'aide sociale ne peut tenir à moyen ou à long terme avec le taux de natalité que nous connaissons aujourd'hui dans ce pays.
Les retraites, mais aussi le système de santé publique, sont financés par les cotisations sociales, les impôts et donc, indirectement, par les actifs qui travaillent. S'ils sont de moins en moins nombreux et que la population vieillit, c'est bien un problème. Pas seulement une vision du monde divergente. D'ailleurs, parmi les modèles ayant préservé un taux de fécondité dans la fourchette haute, en Europe, il y a les pays scandinaves et leur héritage de la social-démocratie. En Suède, on ne lésine pas sur les moyens consacrés aux tout-petits. La correspondante de France Info le racontait.
Les Suédois ont un congé parental de 480 jours, soit plus de 16 mois, à se partager entre mère et père. Et ils doivent prendre chacun au minimum 3 mois. D'autant plus que les crèches ne sont ouvertes qu'aux enfants de plus de 1 an.
En plus, en Suède, la place en crèche est garantie. Ça aide probablement à faire le choix des enfants. Pourtant, si l'on regarde les dynamiques, la fécondité diminue même dans ce pays. Alors qu'un pays où elle explose, c'est la Hongrie, plus 30% entre 2011 et 2021. La politique volontariste de Viktor Orban est passée par là, et elle fonctionne, même si certains le regrettent. Elle fonctionne, mais malgré les allocations familiales, les exemptions d'impôts, les aides au logement, le renouvellement des générations n'est toujours pas assuré non plus dans le pays. La faute au lobby LGBT, dénonce le Premier ministre. Ou alors peut-être qu'il faut assurer aux femmes la possibilité de travailler tout en ayant des enfants. Et ça ne devrait être perçu ni comme une idée scandaleuse, les réduisant à un utérus, ni comme une dangereuse destruction de l'équilibre familial.
À la réalisation d'Accent d'Europe, Françoise Grelot. Retrouvez votre émission sur l'appli Pure Radio de RFI et restez avec nous dans quelques instants la suite de l'information.